Alors, on va commencer notre introduction par un petit rappel de contexte. Effectivement, la loi qui vient d'être votée sur le prix unique du livre numérique prend la suite de la loi de 1981 sur le prix unique du livre papier. Donc la loi dite loi Lang, qui fixe un prix unique pour tous les livres vendus en France, avec une possibilité de remise par les libraires qui n'excède pas 5%. Donc, sauf dans certains cas particuliers, comme le cas des bibliothèques que nous connaissons bien autour de cette table. Et c'est ce que rappelaient les personnes qu'on a entendues dans le film. Le libraire avait la possibilité d'accorder une remise selon sa volonté au client. Et la loi Lang va plafonner cette remise à 5%, ce qui fait que dans toutes les librairies en France, grandes ou petites, on va se retrouver avec le même prix partout. Grâce à cette loi, donc, on a réussi à maintenir en France un réseau de librairies de proximité qui n'a pas forcément son équivalent ailleurs dans le monde. Alors, le contexte des années 70, qui précède donc la loi de 1981, c'est un contexte de lutte entre la grande distribution et le commerce de proximité, donc dans tout type de commerce, qu'il s'agisse du commerce du livre ou du commerce de l'alimentation. Par exemple, la loi Royer de 1973 a limité les horaires d'ouverture des grandes surfaces de plus de 1000 m² et c'est dans ce contexte de dualité entre deux types de commerce qu'a émergé cette volonté de publier la loi Lang. Alors, cette loi s'est inscrite donc dans le contexte de l'arrivée au pouvoir du président Mitterrand donc en 1981 dans une époque où des acteurs de grande taille, comme la FNAC, dont on a vu le président à l'écran à l'instant, commencent à occuper une place de plus en plus importante sur le marché du livre. Précédemment, ce type d'acteurs n'existait pas, donc avec une modification dans les différents types de distributeurs, le besoin donc de faire apparaître cette loi s'est fait sentir. Et contrairement à la loi Royer, la loi Lang ne va pas jouer sur la question de l'accès du consommateur aux produits, c'est-à-dire que la loi Lang ne va pas fixer des horaires d'ouverture limités pour les librairies, quelles qu'elles soient, mais plutôt sur le système de fixation des prix. Alors cette loi donc date d'il y a 30 ans, et en 30 ans, on a pu en constater surtout des effets bénéfiques. Et ce sont ces effets bénéfiques qu'on va essayer maintenant d'appliquer au livre sous sa forme numérique. Alors, un autre des objectifs de la loi Lang visait à encourager une création de qualité. Donc c'est une loi qui visait à préserver la variété de la création littéraire en évitant que la vente de livres ne se concentre sur certains titres dits best-sellers, au détriment d'autres œuvres un peu plus confidentielles qui continuent à être promues par le réseau des libraires de proximité qui peut s'attacher à défendre la création littéraire. Et donc, d'un point de vue du marché du livre, le fait que la remise soit laissée à la discrétion du vendeur pouvait permettre une baisse du prix des best-sellers au détriment des autres types d'ouvrages, tandis que le prix qui va être donc fixé par la loi et qui sera le même pour tout type de livre, va permettre au contraire un renchérissement de ces titres best-sellers et qui permettront par un mécanisme de vase communicant de permettre de permettre à des ouvrages un peu plus confidentiels de continuer à être vendus. Voilà. Et donc cette loi pourrait être considérée comme une spécificité française puisqu'elle fait partie du paquet exception culturelle, mais on a relevé d'autres exemples ailleurs dans le monde. Une dizaine d'autres pays comme la Norvège ou l'Italie proposent également ce type de dispositif, mais pas tout à fait dans les mêmes mesures. Et la France est la première, par contre, à s'être lancée dans l'extension du dispositif au prix du livre numérique. Donc ça, c'est très récent, puisque la loi a été votée le 17 mai, donc la semaine dernière. Et le dispositif du prix est étendu au livre numérique. Alors nous nous sommes penchés sur les rapports des différents rapporteurs, donc la rapportrice du Sénat, Colette Mélot, et le rapporteur du côté de l'Assemblée nationale, Hervé Guémard. Et ce qui nous a particulièrement sauté aux yeux, c'est que la loi de 2011, donc cette loi sur le livre numérique, se situe clairement dans le prolongement de la loi de 1981. C'est-à-dire que le législateur s'est montré conscient des bénéfices de cette loi et en même temps conscient également des différences entre le livre papier et le livre numérique. Donc il constate que certaines dispositions de la loi de 1981 ne sont pas transposables telles qu'à l'univers numérique Et le législateur s'est donc plus intéressé à l'évolution des supports que à s'intéresser à l'apparition d'un nouveau modèle économique. Donc il a considéré que ce qui existait pour le livre papier pouvait pour une partie être étendu au livre numérique et pour une autre partie devait bénéficier de particularités liées au support. Et donc cette loi sur le prix unique du livre numérique s'appuie sur un certain nombre de rapports qui ont précédé la mise en place de la loi, donc l'écriture de la loi, en particulier le rapport Patineau de 2008 qui a servi de point d'appui au travail législatif. Et ce rapport Patineau souligne trois points essentiels. Le premier point, ce sera l'anticipation du basculement du champ éditorial vers le numérique. Et donc, en France actuellement, la vente de livres numériques ne représente que 3% de la vente totale de livres. Donc ça reste un poids relativement faible, mais on peut s'imaginer que lorsque des acteurs de grande importance comme Amazon, s'ils arrivent sur le marché français, et certainement ils y arriveront bientôt, risquent, en amenant leurs fonds et leurs tablettes, risque d'entraîner un élargissement de la vente d'ouvrages sous forme numérique. Donc le législateur a souhaité anticiper cela pour éviter d'être pris au dépourvu le jour où ce phénomène se produira. Également, le rapport Patineau soulignait l'importance d'œuvrer à la protection de la propriété intellectuelle. Donc, dans l'esprit du législateur, un document disponible sous forme numérique risque plus facilement d'être piraté qu'un document qui existe sous forme papier. Et l'un des objectifs de la loi était donc clairement de protéger la propriété intellectuelle. Donc, c'était un point très important qui a été souligné par le rapport Mello, donc qui précédait la mise en œuvre de la loi. Et le rapport Mello dit que la propriété intellectuelle doit demeurer la clé de voûte de l'édition et les éditeurs doivent conserver un rôle central dans la détermination des prix. Et enfin, ce rapport Patineau soulignait l'importance de maintenir le maillage culturel du territoire, notamment par le réseau des librairies, et donc, en d'autres termes, d'encourager la diversité des distributeurs et d'éviter les phénomènes de concentration, voire de monopole. Ainsi donc, comme pour la loi de 1981, l'intervention de l'État est censée garantir la diversité des acteurs et la variété et la qualité des productions. Voilà.
Merci. Alors là, maintenant, on va décrire un petit peu la loi elle-même, telle qu'elle a été votée donc par le Sénat le 5 mai et par l'Assemblée nationale le 17. Alors, on vous a distribué un exemplaire donc de la loi. Vous ne tenez pas compte de l'article 10 sur les permis de construire à la ville de Paris, qui est le cavalier, donc qui a été rajouté. Mais les autres articles sont bien donc sur le prix unique du livre numérique. Alors, les principaux points finalement à retenir dans cette loi, c'est d'abord le fait que la loi s'applique à ce que l'on appelle les livres homothétiques. C'est-à-dire, donc ça c'est l'article 1er, les livres qui ne subissent pas de changement de contenu notable selon que leur support soit numérique ou soit un support papier. Donc ça va limiter déjà bien sûr le champ d'application de la loi. Des exceptions existent à cette loi, c'est ce que stipule le troisième alinéa de l'article 2. Alors les exceptions concernent les livres présentés intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature ainsi que des fonctionnalités. Et ces exceptions donc bénéficient aux organisations qui les acquièrent dans un but professionnel, d'enseignement ou de recherche, qu'il s'agisse d'établissements publics ou d'établissements privés. Donc on a une exception ici qui va concerner les bibliothèques universitaires, pour nous, mais qui ne concernera pas les bibliothèques municipales. Et je pense que cette différence de traitement qui a été dénoncée par de nombreux acteurs, en particulier par l'IABD, on aura l'occasion d'y revenir durant la table ronde. Troisième point important, la loi s'applique aux distributeurs français, mais aussi aux distributeurs étrangers présents sur le marché français du livre numérique. C'est ce que dit donc l'article 3 de la loi. Le prix de vente s'impose aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France. C'est ce qu'on appelle la clause d'extraterritorialité qui a finalement été maintenue par la commission mixte paritaire qui a harmoniser les positions de l'Assemblée et du Sénat et qui a choisi donc de conserver cette clause d'extraterritorialité sans laquelle la loi aurait été une sorte de coup d'épée dans l'eau puisque justement sur le marché du livre numérique, les principaux acteurs sont des acteurs étrangers et même s'ils n'ont pas encore tous fait leur apparition sur le marché français, risquent quand même d'occuper une place importante dans les années qui viennent. Enfin, dernier point sur lequel nous souhaitions insister, c'est l'idée selon laquelle la loi garantirait aux auteurs de livres numériques une rémunération qui soit juste et équitable. Alors, bien sûr, se posera la question des modalités d'application et de la façon de garantir ce caractère juste et équitable de la rémunération des auteurs. Donc voilà peut-être les points qui nous ont semblé les points un peu essentiels finalement de cette loi et autour desquels donc la discussion va s'organiser tout à l'heure. Alors pour préciser un petit peu les perspectives de discussion avant de laisser la parole à nos invités, on va dire qu'il y aura deux temps forts dans cette table ronde. Dans un premier temps quand même, on va s'interroger sur les conséquences pour la chaîne du livre et le marché du livre. Alors autour d'un certain nombre de questions, comme celle de la limitation de la loi au livre dit homothétique, est-ce que cela ne risque pas de rendre la loi un peu marginale ? Dans la mesure où le numérique offre des possibilités de création très variées, est-ce qu'une grande partie finalement des livres numériques à venir ne vont pas se retrouver exclus du champ d'application de la loi parce que justement ce ne sont pas des livres homothétiques. Autre question importante, le maintien finalement d'une offre ou plutôt d'un réseau de distributeurs riches et variés. On sait, donc on a vu que la loi de 81 a eu pour effet de maintenir un réseau de libraires relativement riche et relativement varié. Est-ce qu'on observera un même effet avec la loi sur le prix unique du livre numérique ? On sait qu'on a affaire d'ores et déjà à un marché qui est beaucoup plus concentré, que le poids de certains grands groupes comme Amazon, quand ils interviendront sur le marché français du livre numérique, sera quand même extrêmement fort, un groupe extrêmement puissant. Est-ce qu'il y aura la place sur ce marché-là pour une diversité de distributeurs comparable à celle que l'on peut observer sur le marché du livre papier ? Ça sera une question nous, qui sera débattue aussi tout à l'heure. Enfin, donc, bon, je ne reviens pas dessus, mais quelles vont être les modalités d'application donc permettant une rémunération juste et équitable, et surtout, est-ce que ça ne va pas amener non plus tout ceci à redéfinir un peu la notion d'auteur hein, dans un contexte numérique qui favorise largement les créations en collaboration. Alors, une seconde série d'interrogations, donc essayer de mener plutôt après la pause, va concerner plus précisément le monde des bibliothèques lui-même. En particulier, le rapport entre bibliothèques municipales et bibliothèques universitaires. Donc, les bibliothèques universitaires vont bénéficier de la loi sur le prix unique du livre numérique. Ce ne sera pas le cas dans un premier temps des bibliothèques municipales. Est-ce qu'une telle différence de traitement peut être maintenue ? Est-ce qu'à la faveur du suivi de son application, qui fait partie de la loi elle-même, la loi pourra évoluer dans un sens plus favorable ? Non. Aux bibliothèques municipales, donc ces questions-là seront posées aussi. Enfin, quelles vont être les offres proposées aussi ? On peut penser que les bibliothèques universitaires, qui sont traditionnellement acheteuses de livres relativement rares et chers, vont tirer parti de la loi, puisque si elle a le même effet que la loi de 81, elle fera plutôt baisser le prix des livres rares, en tout cas des livres peu vendus, hein, tirés à peu d'exemplaires. Est-ce que ça va vraiment être le cas ? Est-ce qu'on peut vraiment estimer que les bibliothèques de recherche en particulier vont vraiment en tirer parti ? Là encore, ça fera partie des questions qui seront abordées. Voilà, donc il reste bien sûr un autre domaine qui va constituer, je pense, le tout début de la table ronde. Hein. C'est bien sûr la question de l'avenir un peu immédiat de la loi et en particulier du contentieux qui s'annonce avec la Commission européenne, puisque la loi sur le prix unique du livre numérique est quand même une loi qui vient contredire les règles de la libre concurrence prônées par la Commission européenne et par Bruxelles. Donc, comme pour la loi de 81, on s'attend à un contentieux et on s'attend donc à un bras de fer finalement entre la France, qui est donc le premier finalement pays à avoir adopté une loi pareille pour le livre numérique, et les autorités européennes. Donc là encore, quelles vont être les perspectives, quels vont être finalement les arguments utilisés de part et d'autre.